Amélie 30 TU.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
RFI vous propose une journée spéciale consacrée aux problématiques de l'énergie. Parmi les nombreux rendez-vous, ne ratez pas autour de la question avec Caroline Lachowski. Elle sera entourée de spécialistes et d'historiens pour faire le point sur l'énergie solaire en Afrique. Autre moment de la journée, décryptage. Ce sera en fin d'après-midi, décryptage qui s'intéressera à l'électrification du continent africain. Quant à nous, eh bien, durant les 20 prochaines minutes, nous allons parler de l'énergie. Énorme potentiel que dispose l'Afrique en matière d'énergie renouvelable. Je pense bien évidemment au soleil. Le potentiel solaire y est d'ailleurs le plus élevé au monde. Pourtant, tenez-vous bien, le continent ne concentre qu'1% de la capacité solaire installée à travers la planète. Alors pourquoi un tel retard? À qui la faute? Dites-nous quelles mesures sont prises dans votre pays pour essayer de développer les énergies renouvelables, d'autant que nous sommes dans un contexte de crise énergétique mondiale, de changement climatique également. En tout cas, et on l'entend d'ailleurs depuis quelques jours à Sharm el-Sheikh lors de la COP, on entend l'Afrique, qui est riche en gaz, riche en pétrole, revendiquer le droit de continuer à exploiter ces énergies fossiles, qui sont certes polluante, mais ces énergies lui permettent pour l'instant d'assurer son développement. On va en parler évidemment. Rappelez-vous d'ailleurs des propos du président sénégalais Macky Sall. Je le cite, « Il serait injuste qu'on veuille interdire à l'Afrique d'utiliser les ressources naturelles qui sont dans notre sous-sol. » On va donc en parler ensemble durant les 20 prochaines minutes. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Certains d'entre vous sont donc déjà au téléphone. Sédina, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Alors vous, Sédina, vous faites partie de ceux qui disent l'heure n'est pas à la transition énergétique sur le continent africain. Ce n'est pas le moment.
Oui, je le pense bien, Juan. Parce que si vous voyez, actuellement, nous, on est en manque d'électricité. On n'en a pas suffisamment et même la majeure partie de la population africaine, je dirais, n'a pas accès à cette électricité. Si vous prenez le continent, au moment où l'on parle, il y a je pense, 52% de la population, non, 46% qui n'ont pas accès à l'électricité.
Oui. On estime environ à 700 millions le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. C'est à peu près la moitié de la population. Alors, ce sont évidemment des estimations, difficile d'avoir un chiffre précis. Et donc, partant de ce constat, vous vous dites quoi, Sédina?
Par là, je pense pas. Moi, je dis que, il faudrait
alors, attendez, Sédina, excusez-moi, Sédina. Malheureusement, le réseau s'est dégradé considérablement. Vous savez quoi? On règle ça en antenne et on vous retrouve, car votre analyse m'intéresse et vous allez un peu à contre-courant de ce qu'on entend en Europe en disant il faut l'énergie, il faut une transition énergétique et il la faut notamment tout de suite sur le continent africain. Vous vous dites ce n'est pas le moment, donc ça m'intéresse de connaître vos arguments. Bonjour Achille.
Bonjour Juan.
Sédina, qu'on n'a pas bien entendu, mais on va essayer de le retrouver dans un instant, disait ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le moment pour l'Afrique de penser à la transition énergétique. Vous êtes d'accord avec lui ou pas?
Je suis parfaitement d'accord avec Sédina parce que pour moi, j'estime que c'est un manque de respect pour l'Afrique que de chercher à lui imposer une quelconque transition énergétique en ce moment où l'Afrique est en train de penser son développement. L'Afrique ne représente que 4% dans le réchauffement, dans la pollution mondiale en ce moment. Mais pendant que les 96% ne font rien, pourquoi est-ce qu'on exige ce sacrifice à l'Afrique?
Bon, vous ne pouvez pas dire, que le 96% restant ne font rien, ce n'est pas vrai. Après, font-ils suffisamment? Là, il y a matière à débattre. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui dans votre pays, en Côte d'Ivoire, concernant les énergies propres? Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont mises en place ou pas du tout?
Il y a des trucs qui sont mis en place pour l'usage de l'énergie solaire. Il y a des programmes qui sont mis en place, mais ces programmes ont besoin d'être financés. Mais l'État, en ce moment, n'a pas les moyens de financer cela. Il faut un apport extérieur des bailleurs de fonds de l'Union européenne, de la Banque mondiale. Il faut, si c'est pas à Sharm el-Sheikh, il faudrait qu'il y ait des décisions concrètes.
Ouais.
Ce que les pays développés refusent de faire.
Ouais.
L'Afrique ne va pas.
Achille, je ne sais pas si vous avez entendu sur RFI, il y a un rapport qui a été publié à l'occasion de la COP27, un rapport du cabinet de recherche Bloomberg NEF. Et quand on le consulte, quand on le lit, on s'aperçoit que les investissements dans les énergies renouvelables en Afrique se sont limités à 2,5 milliards de dollars en 2021. Vous allez me dire, 2,5 milliards, c'est quand même pas mal. C'est le plus bas niveau depuis 2011. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'il y a une baisse de 35% des investissements dans les énergies renouvelables sur le continent africain, 35% de moins en 2021 par rapport à 2020. C'est conséquent. Donc vous vous dites, c'est aux pays riches, aux bailleurs, aux institutions internationales de mettre la main au portefeuille. Sédina, vous êtes de retour, on me dit que la liaison est bonne cette fois.
Oui, c'est bon.
Alors, vous dites qu'il faut continuer à exploiter notamment le gaz et le pétrole sénégalais avant de penser à l'énergie propre ?
Oui, effectivement, Juan. C'est mon point de vue, vu qu'aujourd'hui, on est dans une pauvreté énergétique en Afrique. Et également, on ne parvient pas à résoudre ce problème en 2022. Et si vous prenez la moitié des habitants du continent, ils n'ont pas accès à cette électricité-là. Et également aussi, si vous prenez, par exemple, 77% des personnes qui n'ont pas d'énergie, qui n'ont pas d'électricité dans le monde, ils se trouvent en Afrique subsaharienne, plus précisément. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on se focalise plus sur les énergies fossiles pour vraiment pouvoir combler ce gap.
Ouais. Donc difficile de concilier, selon vous, énergie fossile et énergie propre, la priorité aux fossiles. Surtout qu'il y a de grands projets, notamment, puisque vous êtes à Dakar au Sénégal, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, il y a cet énorme gisement de gaz de la grande tortue à Méhine, début de l'exploitation, il me semble, l'année prochaine. Donc il y a un vrai potentiel gazier, mais aussi pétrolier au Sénégal. Merci Sédina, je remercie évidemment Achille de nous avoir appelé de Côte d'Ivoire. Prince, bonjour.
Bonjour Juan.
Bonjour Prince. Merci. Je suis ravi de dialoguer avec vous. Je sais que vous souhaitiez vous exprimer la semaine dernière lorsqu'on a consacré une émission à la COP 27. Vous êtes donc de retour et cette fois-ci bel et bien sur l'antenne. Vous aviez envie de prendre la parole puisque vous êtes vous-même un peu concerné. Vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle Bioénergie à Pointe-Noire au Congo.
Exactement.
Alors, quelle est votre analyse concernant justement le développement des énergies propres en Afrique ?
Bien entendu, moi je suis tout à fait d'accord qu'il y ait la transition énergétique, qu'on ait le développement des énergies renouvelables dans la mesure où, contrairement à mes prédécesseurs, c'est que nous parlons de l'insuffisance de la fourniture d'énergie. Tout le monde n'a pas l'accès à l'énergie, l'électricité par exemple. Mais toutefois, on a toujours produit le pétrole. Mais pourquoi les gens ne sont pas fournis avec l'électricité ? Alors qu'avec l'énergie solaire, on sera indépendant d'avoir l'énergie et l'électricité avec nous. Nous, par exemple, au niveau local et national, que nous avons les initiatives que nous prenons. Nous sommes en préparatif d'un salon à l'avenir, en 2023, oui. Sur l'environnement, les énergies et les nouvelles énergies. C'est-à-dire mettre ensemble les acteurs du secteur privé et la société civile pour discuter ensemble, voir comment au niveau du secteur privé au niveau local qu'on peut aller et financer les projets vers dans ces centrales.
Oui, mais enfin, j'entends bien et c'est louable, hein, Prince, de vouloir créer un salon sur l'environnement, les énergies et les nouvelles énergies. Vous dites que c'est aux entreprises privées, si je comprends bien, et à la société civile de donner le coup d'envoi de la transition énergétique. En même temps, s'il n'y a pas le soutien de l'État, s'il n'y a pas des investisseurs derrière, ça me semble compliqué.
Déjà, bien entendu, l'État, déjà avec le gouvernement congolais, il y a déjà des initiatives. Le président de la République a pris l'initiative de mettre en place le fonds bleu. Mais bien entendu, il faudrait qu'on les interpelle aussi. Nous, on va intéresser. On ne peut pas faire ça sans intéresser le gouvernement et l'État.
Ouais. Bon, merci beaucoup, Prince.
Ils seront là à nous accompagner pour nous soutenir.
On croise les doigts. Le réseau se dégrade. On a de très gros problèmes de téléphone. Décidément, on n'a pas de chance. C'était déjà le cas la semaine dernière lorsqu'on parlait de réchauffement climatique. Bonne journée, Prince, à Pointe-Noire et bon courage donc pour ce salon que vous souhaitez organiser courant 2023, si j'ai bien compris. Charlie, bonjour.
Bonjour, Juan.
Charlie à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Oui.
Sur quel point souhaitez-vous nous interpeller, Charlie ?
Ben, je voulais parler sur la transition énergétique juste, où nous voyons des investisseurs européens qui veulent bien aider le gouvernement sud-africain pour cette transition énergétique juste. Et je pense que le gouvernement sud-africain va saisir cette opportunité pour essayer de pallier à tout ce qu'il est en train de traverser ces derniers temps avec sa société d'électricité.
Il y a de gros problèmes d'électricité en Afrique du Sud. Il y a des coupures récurrentes.
Oui, oui. Et ce sont de grosses pertes pour le gouvernement sud-africain et les investisseurs sud-africains.
Et cette électricité, elle est produite grâce aux centrales à charbon. On sait que le charbon pollue énormément. Il faudrait penser peut-être justement à un autre type de production électrique. Est-ce que la question est posée en Afrique du Sud où on se dit on a du charbon, eh bien on continue à utiliser les centrales à charbon pour produire notre électricité?
Non, on est en train de débattre là-dessus parce qu'il faut reconnaître que l'Afrique du Sud est le troisième pays le plus pollueur qui émet le COD au monde. Et ils veulent arrêter parce que déjà le gouvernement sud-africain a promis de mettre fin à cela jusqu'en 2050. Mais le problème que nous avons ici, et c'est l'énergie propre, l'énergie renouvelable. C'est ce que le gouvernement sud-africain souhaite et qui est en train de négocier déjà avec les investisseurs européens pour trouver un intérêt d'attente afin que cette transition énergétique juste puisse être appliquée. Mais le problème, si nous voulons justement avoir l'énergie renouvelable, mais il y a eu... moi, j'aurais souhaité que les investisseurs qui viennent aujourd'hui avec 8 milliards de dollars qui veulent mettre en jeu pour cette transition énergique juste, moi, j'aurais bien voulu que ces investisseurs-là puissent booster le gouvernement sud-africain qui avait déjà commencé un accord avec le gouvernement congolais par le projet Grand Inga 3.
Ah oui, le barrage Inga 3.
Ouais. Oui.
Effectivement, qui n'a toujours pas vu le jour.
Non, parce que ces projets-là ne coûtent que 12 milliards.
Ouais. Alors attendez, Charlie, alors, c'est dommage, parce que je voyais sur mon écran qu'on avait César à Lubumbashi en RDC, mais visiblement là aussi la ligne ne passe plus. Il est là, on me dit ça y est, il revient, on est en direct. Ouh là là. César, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous êtes à Lubumbashi. À l'instant, Charlie, visiblement congolais d'Afrique du Sud, faisait référence à ce grand projet de barrage hydroélectrique Inga 3. Si je vous dis Inga 3, vous me répondez quoi, vous, César?
Ben, je vous réponds tout de suite que c'est un projet qui patine jusque-là. Donc, c'est un projet qui a commencé depuis les régimes passés. Il y a des appels d'offres qui ont été lancés. Il y a un groupe des sociétés espagnoles et chinoises qui avaient gagné ces appels d'offres, mais bon, jusque-là, le financement pose problème.
Et donc, vous vous dites qu'il y a urgence quand même à mettre en place ce projet pour lorsqu'on parle d'énergie propre?
Il y a urgence parce que c'est un méga projet qui va non seulement desservir le Congo, mais qui va desservir beaucoup de pays de l'Afrique. Donc c'est un projet salutaire pour bien évidemment desservir les populations en énergie électrique.
Ouais, un immense barrage hydroélectrique, effectivement. Alpha Ousmane nous rejoint, il est en Guinée. Alors Alpha Ousmane, il est catégorique. Hein. Bonjour.
Bonjour Juan. Je salue l'ensemble de vos auditeurs.
Merci. Alpha Ousmane, vous disiez au Standard que votre pays, la Guinée, n'était pas prête à la transition énergétique.
Ah oui, bien sûr. Quand vous prenez mon pays, la Guinée, on a un grand problème concernant surtout l'électricité. Avec tout le financement et l'accompagnement de l'AFD, comme vous avez constaté, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à satisfaire nos peuples. Et quand vous regardez aujourd'hui dans la capitale guinéenne, des fois ça va faire ici presque 24 heures, certains quartiers n'ont pas le courant.
Oui.
Donc, c'est déplorable avec le financement donc, qu'on a fait. Parce que si vous regardez...
Mais alors, attendez, Alphonse Mann, moi, j'entends bien, vous dressez un constat, vous dites la situation n'est pas bonne, 24 heures qu'il n'y a pas d'électricité dans certains quartiers, mais ça ne m'explique pas pourquoi votre pays n'est pas prêt à la transition énergétique.
Oui, non, mais je vais vous dire pourquoi mon pays n'est pas d'abord prêt. Non seulement la population guinéenne, elle n'est pas habituée fréquemment de payer les factures électriques. Quand vous en voyez ici, vous regardez, beaucoup de domiciles sont branchés frauduleusement et sans contrôle, parce que des fois, on branche par des copinages ou par des connaissances ou par parental. Mmh. Et vous regardez, parce que quand vous parlez des énergies renouvelables, il faut que les gens au moins payent des factures. Et quand vous regardez encore, le peuple ne reçoit que presque leur pays ne reçoit même pas, la population ne reçoit même pas 57% de l'électricité, donc qui est destinée à la consommation. Ouais. Donc tout ça, c'est par manque. Oui.
Il y a quoi ? Il y a des détournements, trop de corruption, et vous vous dites que ce n'est pas possible. Tant qu'on n'aura pas réglé d'abord les points que je viens de citer, on ne pourra pas se lancer dans des projets sérieux et investir dans l'énergie propre. C'est ce que vous dites en substance.
Oui, parce qu'il y a tellement de détournements. Vous allez voir ici des branchements clandestins, comment dire, perpétrés par non seulement les agents qui sont sur le terrain, des fois qui sont chefs de zone, qui vont brancher les gens anarchiquement pour venir demander des sous. Donc tout ça, ça ne va pas contribuer au renouvellement, aux énergies renouvelables.
Aux énergies propres.
Non seulement vous avez dit que l'AFD a beaucoup financé, a beaucoup investi. Depuis l'arrivée de M. Alpha Condé en 2010, il a beaucoup investi. Il a investi à peu près de 4 milliards de dollars pour nous donner l'électricité. Mais même la capitale guinéenne, on n'arrive pas à couvrir de l'électricité.
Bon.
Vous imaginez.
J'entends bien. Je vous rappelle que Décryptage, ce soir, s'intéressera à l'électrification du continent africain. Ce sera peut-être question de votre pays, la Guinée. En tout cas, merci infiniment, Alphonse Mann, de ce témoignage. Allez, on termine avec Alphonse. Bonjour, Alphonse.
Bonjour, Juan. Bonjour à tous les autres de RFI.
Vous disiez au standard, il faut laisser le temps aux Africains de se développer d'abord avec les énergies fossiles.
Oui, c'est ce que je disais, parce que je prends l'exemple du Sénégal.
Mm-hmm.
Je pense qu'on doit nous laisser aller vers une mixité énergétique pour le moment. Et progressivement, dans peut-être 50 ans, voire 100 ans, je dirais un siècle, aller vers cette énergie propre. Parce que n'oublions pas que...
Un siècle ? Mais un siècle, excusez-moi Alphonse, avec tout le respect que je vous dois, mais enfin un siècle, il y a quand même une urgence environnementale aujourd'hui.
Oui, mais mon cher Juan, l'Europe, il a utilisé tout le 19e siècle pour s'industrialiser. L'Afrique aussi doit utiliser ce siècle, le 21e siècle, pour penser à s'industrialiser, à fixer sa jeunesse, à créer des emplois. Et au Sénégal actuellement, nous sommes dans cette dynamique d'exploitation d'hydrocarbures
et notamment,
pour avoir une manne financière
et notamment
pour
développer le gaz. Et notamment le gaz avec ce projet conjoint avec la Mauritanie, projet qui devrait, dit-on, rapporter au Sénégal et à la Mauritanie entre 80 et 90 milliards de dollars sur les 20 prochaines années, c'est dire effectivement l'enjeu financier que représente l'exploitation du gaz au large du Sénégal et de la Mauritanie. Alphonse, je vous interromps, merci en tout cas d'avoir été avec nous, on arrive déjà à la fin de cette émission. Demain, on parlera Coupe du Monde de football au Qatar, coup d'envoi dimanche, on aura évidemment l'occasion de vous donner la parole sur les chances des différentes sélections, mais demain, j'ai envie de vous entendre sur cette question qui fait débat depuis maintenant plusieurs semaines, question posée par des associations de défense des droits humains et de l'environnement. Faut-il boycotter cet événement ? Et si oui, quel type de boycott ? J'ai vraiment envie de vous entendre, donc appelez-nous, inscrivez-vous dès maintenant, le standard reste ouvert, 33 9 693 693 70.
Crédit immobilier, le prêt longue durée de Banque Atlantique pour acquérir, construire ou rénover votre logement à taux exceptionnel, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Merci. Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
Caroline Paré dans 10 minutes, priorité santé. Gros plan ce matin sur la crise de la pédiatrie en France.
Oui, dans les hôpitaux publics, services dédiés à la santé des enfants débordés, saturation en pleine épidémie de bronchiolite qui nécessite la mobilisation de personnel épuisé avec des effectifs notamment d'infirmières insuffisants, lits fermés, soins et opérations repoussés. On va donner la parole à ces soignants alors que le gouvernement a promis une enveloppe supplémentaire.
On vous retrouve.